Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Stéphane Hugon du cabinet Eranos, qui est un cabinet d'études sociologiques, principalement sur les marques de luxe.
Et aussi sur le bancaire, et aussi sur l'industrie beaucoup. Et la défense.
D'accord, donc sur beaucoup de typologies de marques. Et Stéphane, ça fait longtemps qu'on se connaît, et on a plein de conversations différentes sur plein de sujets différents. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le marketing, ça reste la sociologie, l'étude de l'autre. Il y a plusieurs tendances, mais il y en a une qui est très forte et qui est intéressante, je crois, qui est le retour à la terre. On le voit en particulier chez les Parisiens qui partent à la campagne, qui ont des maisons de campagne, mais on voit de plus en plus, et on va le voir, je pense, de plus en plus avec les voitures autonomes, des gens qui vont retourner beaucoup plus dans la terre. Il y a cette étude qui a été faite par des Japonais il y a quelques années qui disait finalement, ça fait deux générations qu'on a quitté la terre au sens... terrien du terme. Et en fait, l'humain, il est fait pour être connecté à la Terre. Il n'est pas fait pour être en dehors de la Terre. Et finalement, la ville est un organisme pratique parce qu'il y a tout à proximité, on socialise, même si moi, je pense que ça rentrait très seul, mais enfin, c'est encore un autre sujet. Mais on est peut-être, et ça dépend des villes, on va aussi peut-être faire cette segmentation entre des villes qui sont, ce que tu disais tout à l'heure, très autour du béton, et puis d'autres qui intègrent la nature. D'où ça part cette tendance? Est-ce que l'homme, il est censé être connecté à la Terre à l'origine?
Je crois que tu as dit quelque chose de très juste, c'est que c'est un retour à la Terre, c'est pas un aller à la Terre. Ça veut dire qu'il y a un épisode précédent dans lequel nous étions à la Terre, c'est-à-dire que nous avions une relation immédiate avec l'environnement. Et du coup, là, on peut se placer d'emblée sur une échelle un peu historique, et j'ai même envie de dire une échelle très longue, parce que dans notre imaginaire, sur le fond, on a des archétypes qui ont... 8 ou 10 000 ans du moment où nous étions des chasseurs-cueilleurs. Il va rester une trace dans notre cerveau reptilien de ces expériences-là.
On a 20 minutes.
D'accord. Alors, en deux secondes, 8 000 ans en deux secondes. Pendant très longtemps, le rapport à la nature, il était un rapport matriciel. C'est-à-dire que la nature nous fournissait ce dont nous avions besoin. Et du coup, les chasseurs-cueilleurs, ils s'installaient quelque part, par groupe. Ils cultivaient, ils chassaient, ils cueillaient, puisque c'était leur job, autour d'eux. Et une fois qu'ils avaient prélevé l'essentiel des subsistances, le lieu était moins généreux. Et du coup, ils étaient obligés de bouger. Du coup, c'est pour ça qu'ils étaient à la fois les chasseurs-cueilleurs, ils étaient donc nomades. Et à un moment donné, c'est ça qui fait une grande bascule dans notre imaginaire occidental, et pas qu'occidental, mais aussi, c'est qu'à un moment donné, ces chasseurs-cueilleurs, ils se sont sédentarisés. Et en se sédentarisant, ils ont obligé la Terre à fournir de manière plus régulière et de manière plus forte les besoins de subsistance. C'est l'invention de l'agriculture. Et avec l'invention de l'agriculture, c'est l'invention de la technique. Et du coup, c'est un rapport symbolique beaucoup plus fort à l'environnement, puisque c'est aussi le début de la thésaurisation, c'est-à-dire que les familles se succèdent au même endroit et du coup habitent les mêmes maisons. En fait, c'est le début de la ville. Voilà. Donc, ce qui est intéressant que dans notre imaginaire très profond, c'est qu'il y a un moment donné, et ce que tu as dit est juste. Il fut un temps où nous étions tout simplement dans un rapport d'égalité avec la nature. Mmh. Et aujourd'hui, nous avons pris un rapport de prédation vis-à-vis de la nature.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'au bout de 8000 ans, ça allait être un cycle. On se renomadise. Et la ville qui a été une promesse d'émancipation, une promesse de modernité. Mmh. On vient à la ville, comme on dit en France, on monte à Paris pour faire quelque chose. Donc on s'arrache à son village, à sa famille, à sa communauté. Et on rejoint la ville pour faire quelque chose, pour décider de quelque chose. Et ça, c'est un mythe qui est très fort. Mmh. C'était le vieux Marx, hein, disait que l'air de la ville rend libre. Voilà. Donc il y a un fantasme de libération par la ville. Mais tu l'as dit aussi, la ville produit aussi beaucoup d'ennuis. Mmh. Et que passer un moment où on est grisé par l'esprit de la ville, eh ben on s'aperçoit que dans la ville, on s'ennuie parce qu'on a perdu ces relations primales que nous entretenions, non seulement avec l'espace naturel, la terre, on y vient, mmh. Mmh. mais aussi avec la communauté. Mmh. Voilà. Donc en fait, la ville produit un individu solitaire. La foule solitaire, hein, ça a été déjà dit par les romantiques de la fin du 19e. Donc aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a le sentiment qu'on est dans un moment particulier de notre imaginaire sur lequel il y a comme une fascination de ce retour au végétal, mm-hmm. de ce retour aussi, une relation plus crue entre les personnes, une sorte de réensauvagement. Mmh. L'idée de retrouver des relations primales avec la lumière, avec les matériaux, avec l'alimentation,
ouais.
Avec le bruit de la forêt, avec l'eau, avec les éléments. Voilà. Mmh. Donc il y a ça, c'est très fort.
Il ne faut pas oublier que finalement la France, c'est un pays de paysans. Enfin, je veux dire, sans jugement aucun. Non, mais ça reste un pays de paysans à l'origine. On est deux générations, c'est ça, à avoir quitté la terre finalement en France. Et d'ailleurs, quand tu lis Harari, Sapiens, c'est hyper intéressant ce qu'il explique sur la possibilité des humains de se connecter à 150 personnes, enfin, sans reprendre le chiffre de Dunbar, mais c'est vraiment l'idée de se dire qu'une communauté, une communauté, c'est 150 personnes et pas beaucoup plus. Et finalement, les villes, c'est pour ça que je disais, c'est pratique. Mais quand tu vis à New York, tu te rends compte que plus la ville est grande, bah, plus tu es seul, en fait. T'as vraiment cette tendance-là. Et c'est vrai, j'aime beaucoup ce que tu disais sur les matériaux, c'est-à-dire qu'on a cette résurgence, alors sur les réseaux sociaux en particulier, on va le voir sur Pinterest, sur Instagram et autres, du retour au matériel brut, au bois, parfois au béton d'ailleurs, mais aussi cette on aime bien aussi mixer les deux d'ailleurs, bois et béton, ce retour aux matières brutes. On voit aussi les espaces de travail qui évoluent, on voit en particulier sur Instagram cette tendance des plantes et du verre. Dans les espaces de coworking aussi, on a beaucoup ce mélange des genres. On